Si vous êtes au courant de toutes les informations concernant l'équipe de Dark Side of the Prog, nos recommandations du week-end ou encore l'avancée de nos futurs épisodes, nous vous invitons vivement à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont en description. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dark Side of the Prog, l'émission qui vous parle de musique progressive et progressiste. Je m'appelle Manu et comme d'habitude je suis en compagnie de Léo pour vous parler de musique progressive avec bonheur et passion. Comment ça va Léo ?
Bah écoute, ça va nickel, comme toujours, parce que ça va toujours bien quand il faut parler de musique et surtout de prog.
Oh oui, en cette belle matinée de septembre, nous avons décidé de vous parler d'un thème qui est cher à mon cœur et aussi à celui de Léo. Car en France, nous avons l'habitude de dire que nous sommes mauvais en musique, seulement ce n'est pas le cas, c'est faux. Nous attardons seulement sur ce qui est mauvais, et aujourd'hui nous avons décidé de nous attarder sur ce qui est bon.
Eh oui.
Youpi, j'ai envie de dire.
Cocorico.
Alors pour le coup, on s'est basé sur le prog français, vu que Dark Side of the Prog est une émission, comme le nom l'indique, qui parle de musique progressive. On a choisi 3 albums parce que c'est la formule de 1 épisode égale 3 albums, mais on aurait pu en citer bien d'autres. Là comme ça, j'ai en tête un petit groupe montpelliérain qui s'appelle Hypnose.
Petit groupe, tout petit.
L'air est très très léger, mais on a décidé de se baser un petit peu sur des groupes un petit peu moins connus, sauf un qui est vraiment un joli mastodonte sur la scène française. On parle pas de Gojira parce que du coup... On s'est décidé à parler de trucs un peu moins connus pour cet épisode sur la France. Et moi, je te propose qu'on commence tout de suite avec le premier album.
Oui, et même avant de commencer, tu vas parler de Mastodon. Est-ce que vous connaissez Mastodon ?
Oh oui. D'ailleurs, Killer Be Kill, le nouvel album en novembre, mieux ça.
Sympa.
Et le single tape bien. Bon, bref, c'est pas du prog, on s'égare, on diverge.
Verge.
Voilà. Donc pour ce premier album de cet épisode numéro 2 sur le métal progressif moderne français, nous avons décidé de parler d'un petit groupe, une petite perle venue tout droit de la région bordelaise et juste de Bordeaux en fait, qui est un groupe qui s'appelle Altesia. Donc on va parler du premier album de Altesia, Paragon Circus, qui est sorti l'année dernière, donc un album qui était autoproduit. Alors, Altesia, c'est un peu particulier parce que j'ai découvert ce groupe-là grâce à mes recommandations de Deezer, pour le coup, donc merci Deezer, vous êtes cool. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est très influencé par les gros groupes du metal et même du rock prog moderne. Là, comme ça, je pense à Porcupine Tree, je pense énormément à Aiken sur certains passages.
Oh, mais totalement.
Opeth aussi, Opeth beaucoup, ne serait-ce qu'avec l'utilisation de la guitare acoustique.
C'est vrai. Mais après, Opeth, ça va beaucoup planer sur cet épisode, j'ai l'impression.
Ouais, effectivement, ouais. Alors, pour continuer un petit peu à parler de cet album, donc nous avons un album qui est un peu comme le cliché stéréotype de l'album de prog, comporte très peu de morceaux pour une durée assez élevée, car avec 6 titres au compteur, il comptabilise presque une heure, ce qui est assez balèze, on peut le dire.
C'est le prog.
Paragon Circus est donc paru le 11 décembre 2019, donc en fin d'année dernière, sur aucun label, parce que c'est un album autoproduit, comme je l'ai dit. Au niveau du line-up, on retrouve Clément Darieux, donc un peu la tête pensante du groupe, c'est le créateur du groupe, aux parties vocales, à la guitare rythmique et à la guitare acoustique. Donc là, encore, on parle un petit peu de l'héritage d'Opeth avec l'utilisation assez fréquente de la guitare acoustique. Pour le poste de guitariste soliste, on retrouve Alexis Casanova. À la basse, on retrouve Antoine Pirogue, Yann Ménage à la batterie et qui est aussi le mixeur de l'album, donc c'est lui qui s'occupait du mix, du mastering dans son studio personnel, ainsi que Henri Bordillon au clavier. Alors moi, je vais te poser une simple question pour commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet album, Léo ?
Alors, Altesia, alors moi, c'est vraiment le genre d'album, c'est tamponné, c'est fait pour Léo, tu vois. Et pareil, comme on a les mêmes goûts, pour toi, parce que t'as des influences... Comme tu dis, Opeth, Aiken, et moi j'ai trouvé beaucoup de Pink Floyd et de Yes dedans. Je sais pas toi, mais vraiment, moi, tout l'univers.
C'est Pink Floyd, mais en plus péchu quand même.
Oui, un peu péchu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de passages clean, tu vois, c'est pas non plus le métal progressif le plus agressif qu'on ait, tu vois.
Ah oui, bah là on n'est pas sur du Between the Buried and Me ou des trucs comme ça quoi.
Voilà, quand t'écoutes le dernier morceau, Cassandra's Prophecy, pour moi c'est vraiment le mélange entre Aiken, Opeth et Yes. C'est le mélange parfait. Alors après cet album, tu vois, moi il est passé tout seul, et que c'est un album que j'aimerais écouter parce que j'ai beaucoup apprécié. Peut-être le truc qui m'a un peu dérangé, c'est peut-être trop d'influence et peut-être qu'il n'y avait pas assez de personnalité, j'ai trouvé.
Alors peut-être que les influences sont très présentes et qu'elles sont peut-être pas assez diluées. Ils ont peut-être mal un peu digéré les influences, parce que c'est vrai que des fois, moi je pense là au morceau Réminiscence qui, malgré le fait que ce soit un super morceau, tu sens des fois qu'il y a même sur les parties vocales que c'est super inspiré Aiken.
C'est
Tu le
ça,
sens
c'est ça,
vraiment
voilà.
très fort.
Mais le chant, voilà, le chant, il a une super voix, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup au chant de Ross Jennings. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que vraiment, après j'ai beaucoup aimé l'album, hein, et que je vais me le réécouter et tout, parce que vraiment ça me plaît, tu vois. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être ce petit grain d'originalité, tu vois.
Alors pour le coup, oui, l'album pour le coup est vraiment très bon. Bon, je sais que par la communauté prog, il s'est fait un peu railler tout justement par la très forte présence des influences. Mais après, faut bien se dire aussi les enfants que c'est un premier album. Hein.
Oui, c'est
C'est
ça.
pas un truc très mature. Souvent, ça a les défauts d'un premier album, tout en étant mine de rien quand même très bon. Hein. En sachant que surtout, donc c'est un album de metal prog, c'est assez typé prog hein, quand même. On peut s'attendre à certaines constructions des morceaux, etc. Bah, c'est pas quelque chose qui a la prétention de réinventer le prog, hein, loin de là. Mais pour le coup, c'est un album qui propose quand même une grosse variété de morceaux longs. Sur les 6 morceaux de l'album, t'en as quand même 3 qui dépassent les 10 minutes. En comptant le petit morceau d'intro Pandora qui dure 2 minutes 30. Et mine de rien, tu finis quand même l'album sur un morceau, celui que t'as parlé, Cassandra's Prophecy, qui dure presque 18 minutes quand même.
Ah oui, mais après c'est un super album, hein. Je dis pas le
Donc
contraire, mais c'est vrai que
pour...
pour un premier album c'est même très très bon, avec une super pochette aussi, on n'a pas parlé, mais moi j'aime beaucoup la
Là,
pochette.
ouais, par contre, la pochette, vraiment, c'est typique du rock metal progressif. Typique.
Certes, mais elle est vraiment très très belle. Et puis franchement, c'est un album, tu vois, ça me donne envie de suivre le groupe, parce que je sais qu'ils ont fait déjà un très bon album, et que moi je suis sûr que sur leurs prochains albums, ils vont te faire des trucs super, hein. Encore mieux, je pense.
Bah, s'ils arrivent à mieux gérer leur influence de leur musique, ça peut être vraiment quelque chose d'assez dantesque, effectivement.
Et
Pour
voilà.
le coup, moi je sais que c'est un peu du coup une petite fierté, parce que habitant dans la région bordelaise, les groupes aussi bons que ça dans le coin, ça court pas non plus les rues, même s'il y a pas mal de groupes très bons. Là, je pense aussi à Creed.
Non, tu oublies surtout un. Il n'est pas un groupe de prog, mais qui vient de Bordeaux, qui s'appelle Mars Red Sky. Je sais pas si vous connaissez. C'est un très
Oui,
très bon
aussi,
groupe.
oui, effectivement, Marsa Sky, oui.
Meilleur groupe bordelais et un des meilleurs groupes de rock en France. Voilà, je pose ça comme
Pour
ça.
le coup, Monsieur Covid est passé par là et les concerts qui avaient été programmés ont été reportés. Si j'ai bien compris, il y a une petite tournée dans le coin qui a été annoncée récemment par le groupe. Donc, à voir si je pourrais y participer. Peut-être que j'en parlerai un de ces quatre dans un épisode de Darkside. Ça, je vous tiendrai au courant. Mais pour le coup, c'est un groupe. J'ai pu voir quelques vidéos en live et puis pour le coup, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Où sur YouTube il y a un petit making-of de l'album où Clément Darieux parle un petit peu de l'élaboration de l'album, de son enregistrement, de son écriture, etc. Il y a aussi pas mal de vidéos playthrough où ils ont fait The Prison Child, mais tous en étant confinés, donc ils ont appelé ça The Confined Child, ou Confined, pardon. Il y a aussi le morceau Amidst the Smoke qui a été fait en acoustique. Il y a vraiment pas mal de trucs très intéressants avec ce groupe-là qui arrive à un peu se moduler selon l'ambiance qu'il veut donner à ses morceaux. Et pour le coup, vraiment, le morceau Amidst the Smoke, que ce soit sur album ou en acoustique, c'est des versions de morceaux qui passent très très bien. C'est un album qui a une certaine ambiance, un peu pesante par moments, parfois très aérée. Et pour le coup, c'est vraiment, en tout cas pour un premier album, je trouve, un essai qui est transformé, mais avec brio.
Ah mais j'ai voilà, moi j'ai pas dit le contraire. J'ai beau parler des influences qui sont très présentes, le tout, c'est vraiment un super album qui dure plus de 50 minutes quand même, hein, et qui moi s'est passé tout
Il dure
seul.
56 minutes.
Mais ça, voilà, mais moi c'est passé tout seul. C'est vraiment hyper agréable comme musique. Si vous aimez tout ce qui est Aiken, Pink Floyd, Yes, Opeth, foncez sur cet album. Ça sera toujours un bon moment si vous aimez ces groupes-là en fait.
Et pour le coup, par contre, un défaut qu'on peut retrouver souvent sur les premiers albums de groupes de prog comme ça, au niveau des morceaux longs, c'est que les morceaux peuvent se répéter un petit peu. Et là, pour le coup, les trois morceaux longs de l'album, surtout Cassandra's Prophecy, où quand j'ai vu la durée du morceau, j'ai fait oula, ça va sentir un petit peu la répétition. Et en fait, pas tant que ça, les morceaux sont vraiment très bien articulés, très bien composés, et on s'ennuie pas. Et ça, c'est un très très bon point positif, parce que souvent le piège avec le prog et les morceaux longs, c'est qu'on s'ennuie un petit peu. Coucou Dream Theater.
Ah, mais...
non, en vrai, je suis méchant, mais sur la période Mangini, les morceaux longs de Dream Theater sont un peu chiants. Mais bref, je dis vague.
Vague. Et surtout,
voilà.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, par rapport à un morceau long, que je trouve un peu chiant, et là, tu vas me détester. Pour moi, un des morceaux longs que je trouve un peu chiant, c'est le morceau Visions de Aiken. Et là,
ah
tu
ouais.
vas vraiment me tuer. Faut que
ah
je
ouais, parce que pour le coup, c'est un de mes morceaux préférés de Aiken, tu vois.
Moi, je trouve un peu indigeste, en fait.
Après, c'est vrai que c'est un gros. Il dure plus de 20 minutes, c'est un gros pavé dans la gueule, donc c'est vrai que c'est.
C'est.
Effectivement.
Et puis même, je trouve qu'il y a des passages à vide sur le morceau, c'est ça qui m'embête un peu. Mais voilà, après, même l'album des jeunes, faut que je le réécoute. Bref, c'est pas le sujet.
Et pourquoi pas l'écouter pour en parler dans un prochain épisode de Dark Side of the Frog ? Pourquoi pas ?
On verra.
Sur ce, je pense qu'on en a peut-être assez dit sur l'album, je sais pas ce que tu en penses.
Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que voilà. Si vous aimez les groupes qu'on a cités, foncez dessus. Ça sera une super découverte. Et c'est un groupe à suivre de près. Vraiment.
Mais parce que pour le coup, c'est un groupe français, vraiment pur français, 100% race française, et qui est très prometteur, et qui pour le coup, j'espère en tout cas, nous proposera de très belles choses dans le futur.
Ah, moi j'en doute pas.
Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on va vous faire écouter le morceau qu'on a sélectionné pour tout justement pour vous faire découvrir un petit peu... l'univers du groupe, et le morceau qu'on a choisi c'est Amidst the Smoke, donc du coup bonne écoute.
Spreading their heavy songs, mad
Et voilà, c'était Amidst the Smoke de Altesia. Et pour continuer avec le deuxième album de cet épisode d'aujourd'hui sur le métal progressif moderne français, partons en direction de Lyon. Nous allons parler d'un album qui est sorti cette année, en début d'année, précisément en toute fin du mois de janvier 2020, et qui pour le moment, en tout cas moi personnellement, est un de mes albums préférés de cette triste année de merde, connard de virus.
Il y a quand même des super albums. Ah, et attends, tu dis...
Virus, connard de virus. C'était le petit point Renaud. Et donc pour ce deuxième album de ce second épisode de Dark Side of the Prog, nous avons essayé de vous parler du tout dernier album en date du groupe lyonnais Mobius, à savoir Kala. Kala est donc un quintet lyonnais.
C'est Mobius, le groupe espèce de peau de confiture à la myrtille.
Qui est composé de Adrien Brunet derrière les fûts, de Xavier Pompon à la guitare, très joli le petit nom, Pompon, ça j'aime bien. Alexandre Gaudencio à la basse, Guillaume Deveau au clavier et la magnifique Ellie Andrea au chant. Alors bah, du coup je vais te poser la même question que pour Altesia, qu'est-ce que tu en as pensé de cet album Léo?
Alors, le truc que j'en ai pas dit c'est que sur cet album... C'est toi qui les as choisis les trois, parce que, à part le troisième, que je connaissais de nom, les autres, ouais, je connaissais pas. Du coup, Mobius, tu m'as expliqué, tu m'as dit attention, c'est un peu bizarre et tout. Et moi, les trucs bizarres,
C'est très particulier parce qu'ils aiment beaucoup les mélanges. Et là, pour le coup, sur cet album, donc Kala, on a un mélange de métal progressif, même très djent par moment, avec de la musique traditionnelle indienne. Donc, ouais, ça peut. Ça nécessite un petit mouillage de nuque avant d'écouter.
Mais je me suis mouillé la nuque. Et pourtant, cet album, je suis pas rentré dedans. En fait, au début, je trouvais ça bien et tout. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai décroché de l'album. En fait, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé ce soir. Enfin, ce soir, aujourd'hui, ou... Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Mais c'est vraiment l'album où... Voilà, je vais avoir besoin de plus d'écoute ou autre, mais... Moi, il m'a pas transcendé, tu vois, en fait. J'ai bien aimé, mais je suis pas totalement rentré dedans. Malgré une pochette magnifique et un travail qui est magnifique derrière aussi, hein, mais la chanteuse, qui a une voix extraordinaire, je trouve, une voix juste sublime.
Une voix très mobile aussi, une voix sur le morceau. Alors peut-être non, le morceau d'ouverture, c'est un morceau qui s'appelle A, c'est un petit morceau d'introduction, mais le premier morceau, vrai morceau de l'album, Abinivesha, pardon, c'est. Alors oui, les noms de l'album sont très compliqués à prononcer. Qui est le premier single qui a été sorti pour promouvoir l'album. Pour le coup, Ellie Andrea module un petit peu sa voix et pour le coup ça rend très très bien parce qu'on va avoir une voix assez lyrique et apparemment une voix assez grave. Et pour le coup, je trouve que sa voix c'est vraiment peut-être l'une des attractions principales du groupe. C'est vraiment, elle a une voix qui est très modulable et surtout qui emporte les gens.
Ah oui, mais j'ai. La voix, elle fait limite chamanique même. Hein. À part certains moments.
Ah oui, par moments, oui.
J'ai l'impression qu'elle invoque des trucs, je sais pas moi, mais. Tu vois, c'est. Voilà, mais tout ce que je peux dire, c'est que voilà, l'album, ça va pas non plus déplu au point où j'ai pas envie de l'écouter, Coco Saintinger d'ailleurs.
Ouf.
Mais tout ce que je peux dire, c'est que voilà, moi, cet album, je vais sûrement le réécouter, parce qu'il y a des trucs qui m'ont plu dedans, et après, voilà, c'est vrai que le contenu, à un moment, j'ai un peu décroché, contrairement aux deux autres albums. Mais franchement, je pense que au fur et à mesure des écoutes, ça peut devenir un de mes albums de l'année.
Pour le coup, ouais, c'est un album qui est tellement particulier, qui est tellement... dans la fusion qui mélange tellement de choses, c'est... Alors mine de rien, l'album n'y a que entre guillemets que 3 quarts d'heure, c'est déjà pas mal, hein. Coucou les groupes de grindcore qui font des albums de 20 minutes. Mais pour le coup, c'est un album qui, malgré le fait qu'il soit pas excessivement long, il est quand même dans les durées standards d'un album, c'est un album qui est très dense, très varié, très riche. On a une majorité de morceaux assez longs, hein. Pour le coup, le vrai morceau, je parle pas des interludes, le plus court de l'album, c'est le premier vrai morceau, Abinivesha, qui dure un peu moins de 7 minutes, donc pour le coup ça vous donne un petit peu la couleur. Il y a 9 morceaux en tout sur l'album en comptant les interludes. C'est vraiment un album qui pour moi a envie de repousser un petit peu les limites du prog français en tout cas, parce que le mélange comme ça a déjà été vu dans d'autres groupes. Là je pense surtout à des groupes comme Aiken qui associent pas mal de sonorités, surtout par exemple sur des albums comme Visions dont on a parlé avant, des sonorités un petit peu égyptiennes, etc. Et là, pour le coup, vraiment, on embrasse complètement le délire de la fusion du prog et une culture. Il me semble même qu'il y a certains passages où Ellie Andrea parle en indien, il me semble.
Je sais plus à quel moment, ouais.
Donc c'est pour vous dire à quel point c'est assez poussé au niveau de la fusion. Il y a aussi pas mal d'instruments assez typiques. Je crois qu'il y a des instruments typiques indiens avec des sonorités assez particulières. Et ça rajoute beaucoup de cachet, je trouve, à l'album.
Oui, ça rajoute du cachet à l'album, et puis surtout... Bon après, il y a un travail d'ambiance, certes une ambiance un peu spéciale, faut rentrer dedans, Mais par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un album qui est super bien foutu, qui a des ambiances un peu bizarres, mais je vais vraiment avoir besoin de plus d'écoute et de vraiment rentrer dedans, si j'y arrive. Hein, mais je pense vraiment que je peux vraiment aimer l'album dans son intégralité.
Parce que pour le coup, je pense que c'est un album qui est tellement riche, tellement, tellement vaste, qui nécessite plusieurs écoutes. Moi, je sais que la première écoute m'avait mis un petit peu une giflasse que j'avais pas trop compris. Quand j'ai fini l'album avec le petit morceau Annie, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je viens d'écouter ? Je savais que j'avais écouté un truc qui n'était pas, entre guillemets, normal. Parce qu'après tout, qu'est-ce que la normalité ? Vous avez 4 heures.
Oui.
Oh, l'angoisse, putain, je retourne en cours de philo, c'est fini. Mais pour le coup, c'est un album qui nécessite plusieurs écoutes, parce que c'est un album qui est très, très particulier de par déjà son concept, qui est la fusion entre le prog djent et la musique indienne. Donc c'est vrai que ça peut, peut-être pas bouleverser, mais ça peut laisser de côté. Ça peut être assez bizarre dans un premier temps. Moi je sais que j'ai bien mis 2 ou 3 écoutes avant de vraiment bien rentrer dans l'album, de vraiment beaucoup apprécier l'album. Mais c'est tellement particulier, c'est tellement spécial qu'en fait c'est obligatoire qu'il y ait autant d'écoutes pour bien accrocher.
Ça, voilà, moi je pense qu'il faut au minimum 4 ou 5 écoutes pour vraiment rentrer dans l'album. À part si vraiment vous êtes fan de trucs un peu bizarres. Voilà, même moi j'aurais trouvé des écoutes de trucs bizarres. Moi je suis un énorme fan de l'album Laughing Stock de Tall Talk, qui est clairement pas un des albums les plus accessibles qui existent, qui est un album un peu spécial ou autre. Mais voilà, c'est soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas en fait. Y a pas de demi-mesure.
Et pour le coup, ce qui est chelou, parce qu'en soi, musicalement parlant, c'est du metal prog moderne assez, je dirais pas assez typique, parce que du coup, il y a ce concept de fusion avec la musique traditionnelle indienne qui vient un petit peu bousculer tout ça. Mais en termes de construction de morceaux, etc., c'est du prog moderne assez, assez casual, j'ai envie de dire, hein, avec du polyrythme, des rythmes un peu saccadés, donc avec des signatures rythmiques impaires, etc. C'est des choses où on va se retrouver, pour ceux qui vont avoir l'habitude d'écouter du prog moderne, surtout du metal prog moderne assez djent sur les bords. Par exemple, c'est un passage qui me faisait un peu penser, avec la production un peu différente, mais au de In the Passing Night of Day de Pain of Salvation, avec des rythmes très saccadés, beaucoup de polyrythmes. C'est des morceaux où on a du mal à battre la mesure en fait. Donc pour le coup, c'est un album, alors c'est peut-être le moins accessible des 3 albums dont on vous parle aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est un album qui est assez particulier, c'est assez space sur les bords, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à écouter, et surtout, c'est français, et on le répétera jamais assez, écouter de la musique française, de la bonne musique française. Donc c'est-à-dire, n'allumez pas la radio, hein. Non, mais... L'autre jour, j'allumais la radio en voiture, et j'étais dépité de voir à quel point les gens... Bref. Écoutez Altezia, écoutez Mobius... Écoutez aussi le dernier album dont on va parler dans cet épisode aussi, qui est vachement bien, qui est pour le coup une autre pointure, disons, comparé aux 2 albums précédents. Mais Mobius, c'est vraiment un groupe qui est assez atypique. Il me semble qu'initialement, d'ailleurs, ils ne sont pas de Lyon, il me semble qu'ils sont des Dom-Tom. Même si je crois qu'on le dit plus Dom-Tom, bref. Il me semble qu'initialement, ils ne sont pas de la région lyonnaise, qu'ils sont bougés en région lyonnaise, peut-être que je me trompe. Mais on sent quand même qu'il y a un petit héritage un peu... Pas du classique français vraiment, genre le français de base, tu vois.
Ouais.
Et pour moi, ça joue peut-être un petit peu aussi. Parce que quand tu vas en Martinique ou quoi, t'as pas non plus le même style de vie, les mêmes manières de penser, etc. Hein, parce que, bah, mine de rien, au départ, c'est des territoires qui ont été colonisés par notre belle vieille France, hein, qui a envahi des territoires. Bref, je vais pas commencer à parler de politique, parce que sinon ça va partir en couille. Mais... Altezia, c'est vraiment le prog pur, le truc que tu peux entendre un peu partout, mais qui est mine de rien très bien fait. Et pour le coup, Mobius, c'est le groupe qui va essayer de changer un petit peu les choses, d'avoir vraiment un univers propre. C'était cet album-là, moi, ma découverte avec Mobius, et j'ai pas été déçu, j'ai même pris une giga tartasse dans la gueule. Mais je sais que c'est un album qui peut peut-être un petit peu refouler les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des trucs un petit peu space, etc. Donc je vous conseille de lui donner une chance à cet album-là. En plus, il est sorti cette année, à l'époque où le Covid-19 ne nous avait pas encore gâché la vie. Donc je vous conseille d'écouter vivement cet album, parce que c'est vraiment une petite perle. Et puis nous, on va vous laisser sur le petit morceau qu'on va vous passer, je pense. On l'a tout dit, à mon avis.
Bah oui, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire dessus, donc C'est l'album sur lequel j'avais moins de choses à dire.
Mais c'est vrai que certains albums, c'est un peu compliqué parce que c'est des albums qui sont très intéressants, qui sont vraiment excellents, mais dont on ne va pas forcément pouvoir dire beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas impossible qu'il y ait certains épisodes qui soient plus courts que d'autres, etc. Pour le coup, par exemple, sur l'épisode 1, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que c'était des albums très connus, cultes, classiques, où il y a beaucoup de documentation. Et pour le coup, des groupes comme Altesia ou Mobius, par exemple, c'est des groupes où il n'y a pas beaucoup de présentation. Pour vous dire, Mobius, j'ai même galéré à trouver le nom des musiciens. Donc pour vous dire à quel point il y a peu de documentation, à quel point il y a peu de choses à dire, à part parler de la musique en elle-même. Mais sauf qu'une fois qu'on a tout dit, on ne peut pas malheureusement extrapoler.
C'est ça.
Donc sur ce, on va, avant de passer au troisième album de cet épisode, on va vous passer le morceau Mukti, donc, qui est la cinquième piste de l'album Kala de Mobius, qui d'ailleurs, au passage, avant que on vous passe le morceau, si ça vous intéresse, il y a un playthrough de l'album, du morceau pardon, qui a été fait pendant le confinement, avec tous les membres du groupe, donc ça, c'est cadeau. Et sur ce, on vous retrouve juste après le morceau. We'll be right back. Et c'était Mukti, donc, de Mobius, sur le dernier album qui est sorti en début d'année, Kala. Et là, on va changer un petit peu d'ambiance. Je vais pas vous le cacher, mouillez-vous la nuque, parce qu'on va partir dans le beau monde du death metal progressif, avec un groupe lorrain, qui vient de Nancy, parce qu'on va parler de Fractal Universe. Donc, quand on parlait de plus grosses pointures, on parlait de des petits gaillards de Fractal qui sont signés chez Metal Blades. Donc un gros label sur la scène internationale du metal, Hellfest. Donc on va parler du dernier album qui est sorti l'année dernière, Rhythms of Insanity. Et pour le coup, quand on parlait de d'influence OPS pesante sur cet épisode, on avait en tête cet album-là, qui avec Léo, on s'est dit quand on l'a écouté, ah oui, c'est influencé OPS.
Ah non mais... Alors cet album-là, je pense que c'est celui sur lequel j'ai plus de trucs à dire aujourd'hui. C'est l'album qui m'a le plus plu dans les trois. Et puis putain, j'allais dire la bagarre. En fait, c'est un album, t'as la bagarre, et puis t'as des moments hyper atmo, ça prend le temps de poser des ambiances, puis de te rouler sur la gueule, puis de... ça mélange plein de trucs. Opès est surtout présent en fait sur les passages où tu vas avoir une guitare clean, où ça prend le temps de poser une atmosphère. Et... puis voilà, après les mecs derrière c'est des tueurs, parce que t'as vraiment ce délire un peu death technique, death progressif, et un petit côté genty parfois aussi, super sympa. C'est vraiment un album que depuis que qui s'est retrouvé sur la liste, je me suis dit bon, je connais le groupe depuis un petit moment, de nom, faut que j'écoute, et puis vraiment l'album je l'écoute tout le temps en ce moment. Il est trop bien, vraiment. C'est... on s'ennuie pas, juste, alors c'est un petit truc débile, hein, mais... les noms des morceaux sur l'album, pareil.
Ouais, putain.
On a pas été gâtés ce soir sur les morceaux.
Ah non, mais là, clairement, le cliché du de l'album de prog un peu qui est avec des noms compliqués. Moi, pour le coup, alors album de death avec des noms compliqués, ça m'a fait penser à Nile.
Je connais pas assez Nile pour te dire ça.
Death technique où vraiment t'as des noms à rallonge, etc. Là, pour le coup, c'est pas forcément des noms à rallonge, même s'ils sont par moments un peu longs. Mais pour le coup, c'est vraiment des trucs compliqués à prononcer. Là, j'ai en tête Masterpieces Parallelism, Architectural Aberrations, Fundamental Dividing Principle. C'est vraiment des noms bien, bien vénères. Pour le coup, pour ce qui est du line-up, on a un line-up à 4. Donc, on retrouve à la guitare rythmique et au chant Vince Wilkin. À la guitare soliste, du coup, Hugo Florimont. À la basse, Valentin Pelletier, et à la batterie, Clément Denis. Et pour le coup, il y a un truc, moi, qui m'a marqué sur cet album-là. Mon Dieu, les parties de batterie.
Non, mais tous les musiciens. Alors moi, je suis un ancien batteur, donc j'en ai fait durant plus de 10 ans.
Same.
T'écoutes ça, tu te dis, waouh, le mec, quel tueur. Vraiment, quel tueur. T'as des batteries.
Ça va, une rapidité, c'est d'une propreté, c'est juste hallucinant.
Ouais, rapidité, certes, mais comme tu dis, propreté, technicité. Tu vois, mais il a un jeu nuancé, tu vois, c'est pas juste la bagarre pour la bagarre. Le jeu est hyper nuancé, je trouve.
Il a un jeu qui parfois est très jazzy, je trouve.
Ah oui, mais totalement. Cette influence jazzy, elle va être présente aussi tout au long de l'album. Et puis voilà, après, pour revenir sur l'album, vraiment, même le chanteur, on n'a pas encore parlé, mais le chanteur. Il a une voix hyper versatile.
Mon Dieu.
Il a une voix hyper versatile. C'est... voilà, c'est juste bien. Écoutez Fractal Universe. C'est un super groupe, un super album. Puis voilà, vraiment, c'est un groupe que, pareil, je vais suivre de très très près. Parce que c'est vraiment très très bon.
Et pour le coup, l'album dure un petit peu plus de 50 minutes. Enfin, en tout cas, moi, sur Spotify, sur Deezer, je l'ai comme ça, parce qu'il y a aussi un petit morceau bonus unplugged à la fin. Mais pour le coup, Fractal, c'est un groupe très très particulier parce que va y avoir des passages très brutaux. Mais comme tout à l'heure l'a dit Léo, même limite Gents, bon, pour le coup, ça, les deux gratteuses jouent sur les 7 cordes. Donc c'est pas non plus étonnant. D'ailleurs, les parties de guitare aussi sont assez balèzes. Ça tabasse bien comme il faut. Mais en soi, oui, la section rythmique est absolument, absolument ouf. On n'a pas parlé du bassiste aussi, mais qu'il y a des parties de basse mais qui sont.
Oh la basse! Oh mais juste
le
un bug de
mur
basse!
sonore.
Ah, moi je fais très attention à la partie rythmique sur les morceaux parce que j'adore le basse et batterie, c'est un truc sur lequel j'accorde beaucoup d'importance. Et puis là, souvent, dans tout ce qui va être. Enfin, c'est mon avis, mais dans tout ce qui va être death actuel, la basse est très rarement mise en avant. Et là, t'as un son de basse incroyable, les parties, ça t'emmène très très loin, quoi. Tu sens vraiment qu'il y a vraiment ce délire un peu, comme sur la pochette, un peu SF, fantastique, je sais pas trop. Tu vois que t'as ce sentiment qu'on te raconte des choses, qu'on te pose des ambiances, qu'on veut t'emmener quelque part.
D'ailleurs, il y a une très très. La pochette est très très belle.
Ah, la pochette elle est super sympa. Après, faut aimer le style de la pochette.
C'est un peu cartoon, un peu fresque, mais j'aime bien. Il y a un style.
Il y a vraiment un style que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, si vous connaissez pas, foncez. Parce que voilà, on a parlé de Opeth, mais moi, vraiment, Opeth, je le ressens vraiment sur les passages clean. Après, je vais retrouver un peu du groupe Death, parce que voilà, ils ont influencé un peu tout le monde. Puis même, je trouve un peu des petites bribes de Meshuggah parfois aussi. Sur les passages
Ouais, sur les
vraiment.
passages un peu plus gentils, ouais.
Et ça, sur les passages un peu plus bagarre. Mais
Mais guerre.
la bagarre. Mais voilà, c'est vraiment. Foncez. Voilà, c'est vraiment. Si vous, moi, dans les trois albums qu'on a parlé aujourd'hui, si vous devez en écouter qu'un seul, moi je dirais que c'est celui-là. Vraiment. Les autres sont très bons aussi. Mais voilà, j'ai vraiment une préférence pour celui-là qui est mon petit coup de cœur. Vraiment.
Alors moi pour le coup, malgré le fait que j'aime beaucoup l'album de Fractal, parce que j'adore quand ça fait de la bagarre, mais c'est peut-être celui qui me marque le moins, tu vois.
Ah bon?
Après peut-être, ouais, bah pour le coup, c'est celui où j'ai moins les morceaux en tête, à part les deux premiers morceaux par contre que je trouve hallucinants. Vraiment, en termes de refrain, j'adore le chanteur, attendez que je vous retrouve son nom. J'adore quand Vince Wilkins part sur ses refrains très très mélodieux au niveau de la voix, très limite épique en fait.
Ah mais cet album est totalement épique. En fait, c'est même plus que la bagarre. C'est comme si on te racontait des batailles qui se passeraient sur une autre planète. Tu vois, c'est.
Et c'est assez ouf pour le coup le début du morceau, donc le morceau d'ailleurs qu'on va vous passer juste après. Oniric Realizations, pardon, il y a un S. C'est un morceau qui met de suite dans l'ambiance, etc. Puis avec Vince qui chuchote au début. C'est vraiment un album avec une ambiance très marquée.
Ah
C'est,
oui.
comme l'a dit Léo, une ambiance très SF, je trouve. Mais pour le coup, bah, ça fonctionne du feu de Dieu, en fait.
Tu vois, ça fonctionne de fou. Mais voilà, vraiment le morceau qu'on va passer dans Eric Realization, c'est vraiment le morceau qui va vraiment définir l'album. Comme il dit, vraiment ça commence calme, et puis d'un coup, ça pète. C'est trop bien. J'adore
Et
cette
pour le coup, en plus, c'est une petite fierté nationale, parce que bah, du coup, c'est un groupe français, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un groupe lorrain qui est signé quand même chez une grosse, grosse, grosse pointure du métal extrême, à savoir Metal Blade Records. Donc c'est aussi un petit peu une petite fierté, parce que mine de rien, des gros groupes français comme ça, enfin, entre des gros groupes français, j'entends bien, relativement parlant, à la scène française, c'est Fractal est en train de devenir un gros groupe, un gros poisson de la scène, et pour le coup, qui a signé chez l'un des plus gros poissons de la scène métal extrême, quoi.
Voilà, c'est même plus qu'un gros poisson, c'est un requin là, ce rythme-là. Moi j'écoutais que cet album-là parce que je sais qu'ils en ont fait un autre qui s'appelle.
Alors, c'est le deuxième album et il y a aussi un EP.
D'accord, ok. Parce que voilà, leur premier album s'appelle Engram of Decline. Mais pareil, je pense que
Une pochette bleue.
je vais. C'est ça, voilà. Mais je vais aller écouter le reste vraiment. Donc Engram of Decline, l'EP dont tu parles. Parce que vraiment, cet album-là, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment.
Et au passage, il y a aussi un album live qui est sorti bah, cette année, il me semble, où il joue Rhythms of Insanity dans son entièreté. Et ouais, bah en live, tu dois sortir de là-dedans, bah en fait, t'as plus le cervical, t'as plus rien, t'as
D'ailleurs,
le torticolis fois 100.
il me semble que tu m'avais dit que sur YouTube on pouvait trouver un concert entier, il me semble.
Alors, j'ai regardé très succinctement, j'ai trouvé que des extraits. Mais il me semblait avoir vu ça. Alors peut-être que c'est juste l'album live en audio, ce qui n'est pas impossible, hein, mais j'ai vu certaines vidéos live. Et pour le coup, ouais, ça, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil parce que ça tabasse bien sévère comme il faut.
Oh, t'inquiète pas, c'est ce que je vais faire. C'est parce que, voilà. Et même, moi, je pense que comme c'est un groupe français ou autre, si jamais il passe pas loin de chez moi, moi je prends mes places, j'y vais. Mais carrément, hein, voilà.
Ah, pour le coup, en concert, à ce que j'ai vu et des vidéos, ça a l'air quand même vachement bien. Ils ont une petite déco de scène assez sympa. Mais bon, on verra un petit peu comment ça évolue en fonction des conditions sanitaires, etc. Hein, toujours, voilà. ce Covid de merde.
Vivement le retour des concerts. Puis voilà.
Mais... Ah oui, mais...
Que ce soit Fractal Universe, Altesia ou Mobius, quand les concerts reprennent, si vous nous écoutez, passez dans les environs du sud de la France, genre Cannes, Nice, ça serait cool. Moi je viens, hein, direct. Vous inquiétez pas, je viens, j'amène des potes. Voilà. Pitié. Les concerts.
Ah, pour le coup, moi je suis plutôt bien loti parce que il y a un groupe que j'aime beaucoup qui est The Ocean par exemple, qui passe. Du côté de chez moi, pour le coup.
Non.
Ouais. Je t'emmerde.
Et Altesia, qui est un groupe bordelais, qui... Ah donc, alors attendez, parce que j'ai les dates pour la tournée d'Altesia, pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Donc, il y a les dates à Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse. Donc, c'est un groupe qui tourne un peu dans la région, même s'ils vont à Toulouse. Il n'y a pas encore des dates à Paris. Ça va peut-être venir un de ces quatre. Et pour le coup, à ma connaissance, c'est le seul des trois groupes dont on a parlé aujourd'hui qui a déjà programmé des dates. À voir en tout cas si ça va se concrétiser, parce que vu comment c'est parti, on n'est pas sûr de pouvoir revivre normalement avant un bon bout de temps. Donc on verra ça pour les concerts. Mais oui, pour le coup, Fractal, grosse baston. En même temps, en étant signé chez Metal Blade, ça ne m'étonne pas. Parce
c'est
que pour
ça,
le coup,
ouais.
Ils ont, pour ce genre de groupe-là, ce genre de petite pépite, ils ont le flair.
C'est ça.
Donc sur ce, avant de terminer l'épisode et de vous dire au revoir, on va passer un morceau, donc le morceau Oniric Realizations, qui est le morceau d'ouverture, et on vous retrouve tout de suite après. Temporality unload upon the victims of faces on the atmosphere. Et voilà, c'était Oniric Realizations, donc du groupe Fractal Universe, provenant du dernier album du groupe sorti l'année dernière, Rhythms of Insanity. Donc pour faire un petit bilan, un peu, qu'est-ce que t'en as pensé, Léo, des trois groupes dont on a parlé aujourd'hui?
Bah c'est trois belles découvertes, même Mobius, que j'allais dire que j'ai trash talk. Non, j'ai pas vraiment trash talk, j'ai bien aimé. Mais voilà, il faut vraiment que je me pose un jour pour l'écouter vraiment en profondeur cet album. Mais voilà, vraiment, c'est trois super découvertes, je t'en remercie. Puis voilà, après, sur les futurs épisodes, il y a moi qui vais te faire des découvertes aussi, en espérant que ça te plaise.
Ah bah j'espère, toujours pareil à la découverte. Moi, pour le coup, ces trois albums, dont surtout deux, donc les deux premiers, Altesia et Mobius, que je connaissais, parce que c'est des groupes que j'ai fait l'expérience de la découverte il y a maintenant quelques mois, qui sont deux groupes qui m'ont beaucoup plu. Fractal Universe a été pour le coup l'occasion pour moi de me replonger dedans, parce que je l'avais juste écouté une petite fois il y a quelques semaines et ça m'avait pas forcément marqué, et puis là je l'ai réécouté et puis j'ai pris un gros parpaing dans la gueule. Mais c'est un groupe qui tabasse bien, et du coup bah, c'est rigolo d'avoir un petit peu un parallèle entre trois albums, parce que mine de rien, les trois albums dont on a parlé aujourd'hui, c'est trois albums qui sont quand même viscéralement différents.
Ouais, et puis ils ont chacun vraiment leur style, genre on va avoir Altesia qui va certes dans le metal prog, mais plus onirique et plus ésotérique, plus tranquille on va dire, avec des influences beaucoup plus Yes. Mobius qui va être le groupe le plus étrange avec ses influences un peu world music, bon ça veut tout et rien dire, mais un peu musique indienne, musique traditionnelle. Et on va avoir Fractal qui vraiment nous emmène sur d'autres planètes, avec des batailles entre... En tant qu'extraterrestre et être humain, moi j'ai vraiment cette impression-là, tu vois, sur les albums. Trois univers différents, trois styles musicaux différents, trois personnalités différentes.
Et en parlant justement d'influence world music pour Mobius, je me demande s'il y a dans les influences de Mobius des petites influences Dead Can Dance sur les ambiances, peut-être.
Ah, peut-être. Je connais très très peu le groupe. J'ai jamais écouté le morceau en entier, je connais juste quelques trucs.
Et ah, bon, moi je l'avais découvert grâce à la magnifique vidéo de Chris d'Angel The Noise. Et bah c'est cool, oui. Dead Can Dance, allez écouter, c'est très cool Dead Can Dance.
Ah oui, non, moi ce que j'allais dire, c'est que je connais avec la vidéo de Angel in the Noise, mais après j'ai jamais écouté le morceau en entier.
Sur ce, je pense qu'on a assez déblatéré sur pourquoi les trois albums qu'on a écoutés et dont on vous a parlé aujourd'hui sont trop bien. N'oubliez pas que si vous avez des retours à nous faire, vous pouvez nous les dire sur Twitter et peut-être bientôt sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait. On verra ça, on vous tiendra au courant, bah de toute façon sur Twitter, haha. Et sur nos comptes personnels. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve pour l'épisode 3, qui est un épisode très particulier parce qu'on va avoir notre tout premier invité dans l'émission. Youpi !
Surtout, mais quel invité ?
Et pour le coup, oui. Alors, est-ce qu'on spoil ou pas ?
Ah non, non, on garde la surprise.
Alors, on vous dit pas l'invité, vous le découvrirez lors de l'apparition de l'épisode 3. On vous prépare aussi un épisode hors série sur le dernier album de Pain of Salvation, Panther. Donc il devra arriver, pour le coup, allez, au moment où vous écoutez ça, peut-être la semaine prochaine.
Oui, à et voir. Puis, est-ce qu'au risque de dévoiler l'invité, est-ce qu'on dévoile quand même le thème du prochain épisode ?
Oui, vas-y, je te laisse cet honneur.
Alors, pour le prochain épisode, le prog va rencontrer les déserts chauds et arides, les ambiances un peu lentes, on va parler de Stoner Prog, voilà.
Pour le coup, ceux qui connaissent un petit peu le stoner et la scène podcast stoner française vont rapidement deviner qui est l'invité, pour le coup, je pense.
Ah oui, non mais... Maintenant qu'on a dit ça, je pense que beaucoup de gens ont compris de qui va être invité dans le prochain épisode.
Eh bien, je pense que nous allons nous laisser ici. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de vous parler de prog avec passion, avec bonheur, avec joie, même si je n'ai aucune idée de qui sont ces trois personnes. Je fais des gros bisous à tout le monde, et surtout à mon compère Léo, parce que bah on est loin, et du coup, Léo, tu me manques.
Oh, des gros putous.
Oh, des putous. Mais avec les gestes barrières, parce que attention, Covid-19.
Ouais, on fout. Poutou.
Oh bon, d'accord. Oh, bah. Surtout, ne suivez pas cet exemple, c'est mal, les enfants, protégez-vous, mettez vos masques, bordel, à queue. Et les mettez-les correctement. Sur ce, on vous fait des gros poutous un peu partout avec quelques gestes barrières parce qu'on ne sait jamais. Prenez soin de vous, de votre famille, mettez, comme je l'ai dit, votre masque, écoutez de la musique, surtout du prog parce que le prog c'est vachement bien. Et sur ce, bah, des bisous.
Bisous.